Voilà, je voudrais vous inviter à ouvrir votre Bible dans l'Évangile de Luc, au chapitre 22 et au verset 61. Vous connaissez ce récit, c'est le récit de Pierre. Il s'est retrouvé dans une situation compliquée, ce Pierre, à ce moment-là. Vous allez vite comprendre ce qu'il en est de lui. Luc 22, 61. Le Seigneur s'étant retourné, regarda Pierre, et Pierre se souvient de la parole que le Seigneur lui avait dite, « Avant que le coq chante aujourd'hui, tu me renieras trois fois, et étant sorti, il pleura amèrement. » Vous connaissez bien ce texte, c'est ce texte du reniement, on va y vous revenir dans quelques instants, mais cela me fait penser que le pardon est une chose merveilleuse. C'est quelque chose d'extraordinaire et on en prend conscience à la croix du calvaire quand Jésus meurt, c'est sur cette croix, il dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font ». Le pardon, c'est quelque chose de merveilleux et j'espère pour vous que vous avez goûté au pardon de Dieu. Mais parce que le pardon restaure l'être tout entier, guérit. Il guérit, je dirais, le plus terrible des cancers que je nomme la culpabilité. On sait que la culpabilité est là pour détruire, pour nous miner, là pour nous enfoncer, pour nous paralyser. Et le pardon est là pour libérer cette culpabilité. Et on voit dans les Écritures, hein, dans la parole de Dieu, il nous est montré plus de 250 fois ce verbe pardonner. Et ce n'est pas innocent si Dieu met plus de 250 reprises ce mot pardon, ce pardon qui vient briser la haine, qui vient briser la puissance démoniaque. Pourquoi pardonner alors ? Ben, pardonner parce que c'est un acte de soumission. Colossiens chapitre 3, verset 13. Parce que Jésus nous pardonne. C'est dans Matthieu chapitre 18, verset 23 à 25. Et pourquoi pardonner ? Ben, parce que Dieu nous le demande. Et vous avez plusieurs versets dans les Écritures, particulièrement celui-là, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Et ça, c'est très clair. Parole de Dieu nous enseigne aussi, c'est Jésus qui enseigne à ses disciples ce principe divin. Il dit ceci, si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père Céleste vous pardonnera aussi, mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père Céleste ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Matthieu chapitre 6, verset 14. Il y a un principe divin dans le pardon. Je te pardonne et tu pardonnes. Et dans le pardon, il y a comme un déblocage, il y a une action, il y a une porte qui s'ouvre au travers du pardon. On rentre dans la bénédiction de Dieu au travers du pardon. On en est tous conscients. Parce que sans pardon, point de salut. Sans pardon, point accès à la bénédiction de Dieu au nom inscrit dans le livre de vie. Et nous avons besoin de réaliser cette dimension du pardon. Alors il nous faut pardonner. Le pardon, c'est d'abord, tout d'abord une décision. C'est un choix aussi. C'est un choix, mais aussi un processus. Pourquoi ? Parce que dans le pardon, parfois, il y a une restauration, une guérison qui s'opère. Quand on a été énormément blessé et que nous demandons pardon quelque part, certes, le pardon est instantané, mais il y a des moments, il y a encore des blessures qui sont là. Il faudra un petit moment, quelque temps, pour que ça se résorbe. Et tant qu'on touche la blessure qu'elle nous fait mal, c'est que ce n'est pas encore résorbé. Et il y a un processus, parfois. On pourra, à l'occasion, apporter une prédication là-dessus, très intéressant. Mais ce n'est pas le sujet de ce matin. Le pardon a plusieurs facettes. La première facette, c'est pardonner celui qui nous a fait du mal. Je ne vais pas vous demander si on vous a déjà fait du mal. D'accord ? Mais ce texte est important, pardonner celui qui nous a fait du mal. Et on a tous été un jour affectés par quelqu'un qui nous a fait du mal, près ou de loin, qui nous a blessés. Et vous avez entendu des enseignements là-dessus de pardonner cette personne. Pas toujours facile, mais pourtant il faut le faire, pour nous-mêmes déjà. Puis la parole de Dieu nous montre qu'il faut demander aussi pardon à la personne que nous avons fait du mal. Et je pense pas me tromper que chacun d'entre nous qui sommes ici dans ce lieu, nous avons tôt ou tard, à un moment donné dans notre vie, fait du mal à quelqu'un. Si pour quelqu'un c'est faux, qu'il lève la main, qu'il vienne ici, je vais prier pour lui, pour cet esprit de mensonge. Nous avons besoin de demander pardon à quelqu'un. Puis la troisième facette, c'est forcément recevoir le pardon de Dieu sur notre vie. Ça, c'est la facette la plus importante. C'est celle que nous avons besoin, parce qu'à partir de là, nous pourrons demander pardon aux autres, nous pourrons recevoir aussi le pardon. Mais il y a une quatrième facette. Et cette quatrième facette, on n'en parle quasiment jamais. J'ai eu du mal à trouver quelque chose, une pensée sur Internet par rapport à ça. C'est se pardonner soi-même. J'ai entendu parfois des phrases, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion, dans vos conversations, auprès de vos amis, de votre famille, peut-être parfois même des frères et sœurs, cette phrase, « Je ne me pardonnerai jamais ». Vous voyez, ce mot « jamais » me fait froid dans le dos. Parce qu'on se ferme définitivement à une solution de Dieu sur notre vie. Jamais je ne me pardonnerai. Et il y a des frères et sœurs, il y a des amis qui, par regret, par, je dirais, à cause de situations compliquées, par rapport à certaines circonstances, et je peux donner quelques exemples, suite à un divorce qui s'est mal passé, où on a peut-être une part de responsabilité, suite peut-être à une perte de notre chair, on n'a pas su prendre du temps avec, et on se retrouve là devant cette tombe, et on a plein de regrets qui viennent prendre place, parce qu'on n'a pas su l'écouter, on n'a pas su s'asseoir, partager, manger avec, on est là, on le regrette, on se dit « mais jamais je me pardonnerai ». Peut-être même au travers de nos enfants, parce qu'on a raté un épisode de sa vie, parce qu'à un moment donné où ils avaient besoin de nous, on n'a pas su être là à l'écoute. Alors aujourd'hui, ils sont dans le monde au lieu d'être dans l'église. Et on s'en veut. Et on s'en veut amèrement. Il y a comme quelque chose qui a pris place et quelque part, on est en train de se faire du mal. Tant de culpabilité. Tant de regrets. Tant de souffrances. Et je suis conscient, frères et sœurs, que accepter le pardon inconditionnel de Dieu est déjà difficile. C'est déjà difficile. Mais se pardonner à soi-même nécessite une action puissante du Seigneur. Parfois, c'est beaucoup plus difficile de se pardonner à soi. C'est beaucoup plus difficile d'accepter ce pardon dans notre cœur. Pourtant, c'est un choix, c'est une volonté. Ça demande un désir de se restaurer. Je dirais même, j'irai plus loin, ça demande de l'humilité. Parce que c'est clair, on est spirituel, on aime Dieu, on veut absolument régler le problème avec son frère et sa sœur. On va le voir, on va lui demander pardon, parce qu'on l'a peut-être blessé. Mais quelque part, toi, tu te refuses ce pardon pour ta vie. Tu veux absolument plaire à Dieu en demandant pardon à ton frère et à ta sœur, mais toi, tu te le refuses pour toi. Et là, il y a quelque chose qui cloche. C'est là où ça pose problème. Et c'est sur ce point-là que bien souvent, on met de côté, parce que ça ne nous concerne qu'à nous, ça ne regarde personne. Sauf que oui, ça regarde Dieu. Ça remet en cause même le pardon de Dieu dans son ensemble, parce que la Bible nous dit dans Jean 3,16, « Car Dieu a tant aimé le monde pour quiconque, c'est-à-dire toi et moi. Il a donné sa vie pour quiconque. » Et ça remet en cause, finalement, ce pardon global. Dans 2 Corinthiens chapitre 7, verset 10, il dit « En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut, dont on ne se repent jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. » Refuser de se pardonner engendre une tristesse selon la mort. Une tristesse qui va nous marquer sur notre visage. On se sent éteint. Et on s'éteint à petit feu. On perd cette joie. On perd cette paix. Oh, on a peut-être une belle apparence comme cela quand on vient à l'église, mais quand on sort d'ici, on enlève le masque. On reste soi-même. Il y a comme quelque chose qui est là, qui nous blesse. Les raisonnements prennent place. Les mauvaises pensées, la culpabilité viennent s'installer. Et dans le refus de se pardonner, il y a parfois une auto-punition. Cette autopunition, c'est quoi? C'est que certaines personnes se privent des bénédictions s'imaginant qu'ils n'ont pas droit. Je n'ai pas droit d'être béni. Parce que ce n'est pas possible. Avec ce que j'ai fait, je n'ai pas le droit d'avoir la bénédiction de Dieu sur ma vie. Et on s'autopunit, on se flagelle. Et même, à la limite, quelque part, on se dit, peut-être que ça va plaire à Dieu. Alors que pas du tout. Et ça va même plus loin que l'autopunition. Il y a aussi l'autodestruction. Parce que c'est une escalade. C'est une escalade dans quel sens ? Ben que certains auront des comportements malsains, parfois même excessifs. Je ne vais pas exagérer en disant que parfois on pourrait peut-être être adonné à la boisson pour oublier. Je ne dis pas qu'on va être addict à cela, mais parfois boire un peu plus que d'habitude parce que, bon voilà, on veut oublier quelque chose. Oublier quoi ? Parfois certains vont reprendre la cigarette alors qu'ils ont été complètement libérés à la conversion. Et d'autres vont se jeter dans la nourriture, à manger, pour ne pas dire à se goinfrer. Pour essayer d'oublier quoi ? Pour essayer d'apaiser, de satisfaire peut-être un mal-être. Il y a l'accumulation de biens matériels. Alors, il y en a d'autres qui vont acheter. Ça ne va pas être peut-être quelque chose de compulsif, ça ne va pas être un toc, mais quelque part, il y a comme une sorte d'incitation pour calmer quelque chose. Peut-être même dans le divertissement en outrance, pour soulager un mal profond. Alors on va se divertir à droite, à gauche, on va essayer d'occuper l'esprit, pour essayer d'apaiser cette douleur. Il ne va pas y avoir la guérison derrière cela, mais c'est juste pour apaiser quelque chose qui est là, dans notre vie, au plus profond de notre être. D'autres seront en suractivité professionnelle pour combler un vide, peut-être un trop-plein. On va se mettre à fond dans le boulot. On va en faire plus que d'habitude. On va prendre même les documents, les dossiers, on va travailler à la maison. On va occulter tout ce qui nous entoure et bien on va se plonger dans le job. Tout ça pour oublier peut-être un vide qui est là. Un vide de paix, de joie, d'allégresse, peut-être un trop-plein de douleur, comme quelque chose. Et c'est là qu'on s'auto-détruit, je dirais, à petit feu. Je dirais même que le non-pardon dans notre cœur peut pousser aussi à l'indignité. Si Satan peut susciter en vous l'impression d'être indigne à cause de vos échecs passés, alors il aura réussi sa mission. Entre nous, qui est digne ici ? Personne. Mais le diable, il va te dire... Toi, t'es particulier, t'es vraiment indigne. T'as quelque chose qui fait que vraiment tu mérites rien. Tu n'as pas le droit. Et c'est comme ça qu'on s'afflige toutes sortes de, je dirais, de coups de bâton sur notre vie. Puis des pensées déformées, au lieu de s'appuyer sur les promesses bibliques. Ben, cette personne-là préférera se conforter dans les pensées erronées. Et j'appelle ça les raisonnements. Vous savez, l'apôtre Paul nous en parle, les raisonnements. Il nous dit des raisonnements que c'est une forteresse, c'est terrible les raisonnements. Quand quelqu'un est en train de faire travailler le lave-linge là-dedans, vous voyez, ça lave, mais ça, c'est jamais propre. Ça lave sale. Et plus on lave, plus c'est sale. Et on ressasse toutes sortes de pensées erronées, mauvaises. Je dirais même que ça va aller même beaucoup plus loin. Au travers des raisonnements, on fait croire que le mensonge est la vérité, que la vérité est un mensonge. On sait très bien, perdument, au plus profond de notre cœur, que Jésus, il est là pour nous pardonner, pour nous aimer. Jésus nous demande de nous restaurer, de nous accepter. Ça, tu le sais très bien, mais tu te le refuses. Tu dis, pas pour moi, je n'y ai pas droit. Tu veux rester dans ce mensonge parce que tu veux te faire du mal dans ce mensonge. Tu vas croire que tu vas avoir l'approbation de Dieu dans cette position-là. C'est un mensonge du diable. Et c'est pour ça que certaines personnes restent dans cet état de non-pardon. Ils vont largement, facilement aller voir un frère et sœur pour lui demander pardon. Ils vont le faire très facilement. Mais par contre, pour eux-mêmes, ils vont être durs pour eux-mêmes. Ils vont se faire mal pour eux-mêmes. Ils vont se détruire pour eux-mêmes. Parce qu'ils se croient ne pas y avoir droit. Et c'est pour ça que nous avons besoin de pouvoir nous arrêter quelques instants là-dessus, frères et sœurs. Parce que c'est trop important ce que je vous partage ce matin par rapport à ça. Frère, ma sœur, tu as été capable de pardonner ton prochain, ça c'est très bien, et c'est ce qu'il fallait faire, mais il te faudra aussi te pardonner. Te pardonner sans quoi le pardon ne sera pas complet. Pour qu'un pardon soit complet, il faut que non seulement tu demandes pardon à la personne, mais aussi que tu acceptes le pardon sur ta vie. Parce que le pardon de Dieu à la croix du calvaire, il est total, il est complet pour tous les hommes. On l'a dit dans Jean 3,16. C'est pour chacun d'entre nous prendre conscience de cela. Alors imaginez, revenons au cas de Pierre. Il sortit et pleura amèrement après avoir trahi le maître. C'est juste incroyable ce qui s'est passé là. D'avoir trahi le Seigneur. Et vous savez, à l'époque, une parole était une parole. C'est pas besoin de passer devant un notaire, certifier cela devant des experts ou devant un témoin. Non, non, non. Une parole était une parole. C'était quelque chose de fort, de puissant. Et là, il sort quelque chose de violent. Non, je ne le connais pas. Il a trahi trois fois quand même. La scène de cette trahison a dû se rejouer maintes fois dans son esprit. Et c'est pour cela qu'il nous a dit qu'il sortit et pleura amèrement. J'imagine l'apôtre Pierre se taper la tête par terre et taper du poing en disant « Mais qu'est-ce que j'ai fait là ?» Il a dû s'insulter, il a dû se détester à ce moment-là. Il a dû vraiment avoir des émotions très fortes contre lui-même. Ça vous est jamais arrivé ça ? De vous en vouloir ? D'avoir tapé du poing sur la table en disant « Mais qu'est-ce que j'ai fait là ?» De se dire « Mais je ne pourrais pas me pardonner de ce que je viens de faire. » Alors imaginez à ce moment-là, dans cette émotion-là, imaginez qu'au même moment, on vient vous dire « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Comment tu t'aimes à ce moment-là ? Alors que tu es en train de te détester et Dieu de te dire « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Qui est ton toi, ton semblable ? Qui est ton prochain ? Ton prochain, ce sont tes enfants. Ton prochain, c'est ton conjoint. Ton prochain, c'est ton époux, ton épouse. Ton conjoint, ce sont tes amis. Ce sont tes parents. Et imaginez que tu prennes dans les bras ton fils et que tu le serres dans tes bras alors que tu ne t'aimes pas. Comment tu peux aimer pleinement, totalement, complètement cet enfant que tu as engendré ? Ça, impossible de pouvoir lui transmettre. Vous savez, c'est plus que des paroles d'aimer quelqu'un. C'est quelque chose qu'on ressent au fond de notre cœur. Et Dieu te dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et toi, tu ne t'aimes pas. Comment tu peux faire ? Vous voyez que ça bug là. Vous comprenez qu'à ce moment-là, il y a un problème là, au niveau spirituel. Et puis après, on va prier pour nos enfants, que Dieu les touche, que Dieu agisse dans leur vie, que Dieu les bénisse, que Dieu leur pardonne, que Dieu les aime. Mais toi-même, tu n'arrives pas à les aimer parce que toi-même, dans ton cœur, tu refuses de t'aimer. Alors que Dieu lui t'aime. Waouh ! Mais ça va même plus loin. Hein. Ça peut même toucher les sentiments à l'égard de ton conjoint, tout ça. Tu pourras dire à ton conjoint, chérie, je t'aime, mais ça sera difficile quand même de le vivre pleinement quand on sait qu'on ne s'aime pas. Alors il y a eu la confession de Pierre. À ce moment-là, alors que Pierre était là, il était dans la douleur, alors qu'il pleura amèrement. Tout s'est passé, Jésus ressuscité des morts, et puis il s'est retrouvé. « Ah Pierre, salut, ça va, tu as bien ? Écoute, tu pourrais t'asseoir 5 minutes là avec moi ? Je voudrais te parler. » Il dit « Alors Pierre, comment ça va ?» Il dit « Ben écoute Seigneur Jésus, oui ça va. Pierre, est-ce que tu m'aimes ? » Ben, « Bien sûr, tu sais très bien que je t'aime. » Puis il lui dit deuxième fois « Pierre, c'est bien, ça va, tu vas bien ? Ouais, ouais. Est-ce que tu m'aimes ? » « Seigneur, tu sais que je t'aime. » Et vous savez que dans ce texte, il le dit à 3 reprises. 3 reniements. Mais comment tu peux aimer Dieu que tu ne vois pas et que tu ne t'aimes pas toi ? Dis-moi. Chaque fois que Pierre a confessé l'amour pour Jésus, il était en train aussi de s'accepter, de s'aimer, de se pardonner. Parce que tu ne peux pas aimer Dieu si toi, tu te détestes. Et ça, Jésus l'aurait ressenti. Il aurait pu dire, Pierre, t'es un menteur là. T'es en train de me dire que tu m'aimes alors que tu te détestes. Il l'aurait vu ça, Jésus. Mais il ne l'a pas dit. Il ne l'a pas dit parce qu'il savait que là, il y avait des paroles qui étaient sincères. Non seulement il aimait Dieu, mais il s'acceptait, il recevait, il a accepté ce pardon de Dieu total et complet sur sa vie. Il savait que pour être pardonné, pour être lavé, pour demander et pour apporter ses excuses, il fallait que lui-même s'accepte et accepte ses excuses pour sa propre vie, pour son propre cœur. Et on en a un deuxième exemple avec l'apôtre Paul, où il s'appelait Saul de Tarse, il respirant la menace et le meurtre, nous dit la Bible. Et la parole de Dieu nous dit qu'il a regretté d'avoir persécuter l'Église, et à maintes reprises, il va le répéter dans le Nouveau Testament, et particulièrement dans 1 Timothée, au chapitre 1er, il dit « Mais moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, mais j'ai obtenu miséricorde par Jésus-Christ. » Moi qui étais un blasphémateur, un persécuteur, je persécutais les chrétiens, il se faisait un malin plaisir de persécuter les chrétiens. Les chrétiens étaient tétanisés face à Saul de Tarse. À un moment donné, un de ses serviteurs devait aller le voir pour prier pour lui. Il avait peur. Mais comment il va me manger? Peut-être qu'il va me tuer. Il avait peur de ce sol de Sar parce qu'il respirait la haine. Comment un homme au passé si effroyable pouvait-il devenir le plus grand missionnaire et le plus important évangéliste de son époque? Ben, en se pardonnant. En se pardonnant, frères et sœurs. Ces deux hommes ont découvert le secret de la victoire en se pardonnant. Ils n'avaient pas le choix. Ils n'avaient pas le choix et ça a eu une telle répercussion sur leur ministère, sur leur vie, qu'ils ont été même une bénédiction autour d'eux. Je le disais tout à l'heure, imaginez-vous de ne pas vous aimer, de vous refuser le pardon, quel impact vous allez avoir autour de vous. Vous allez prier pour vos enfants alors que vous-même vous vous détestez. Vous priez pour vos parents alors que vous-même vous vous refusez ce pardon, alors que vous priez pour que Dieu le pardonne. C'est un non-sens. Ça ne tient pas. Tu as besoin de lâcher prise ce matin. Tu as besoin de lâcher ce que le Seigneur lui a tout pris à la croix du calvaire. Tu ne peux pas te permettre de garder quelque chose que Dieu a pris à la croix. Tu ne peux pas te priver de la bénédiction de Dieu sur ta vie parce que Dieu a des projets de paix et non de malheur. Et si tu veux rentrer dans cette destinée de Dieu, tu n'as pas le choix à un moment donné de lâcher prise, de te dire « je vais maintenant abandonner mes droits et totalement faire confiance à ce Dieu tout-puissant sur ma vie. » Tu as besoin ce matin d'accepter et de prendre conscience de cela au plus profond de ton cœur. Ces deux hommes ont découvert le secret de la victoire en se pardonnant. Alors bien sûr, peut-être que ce matin, il y a toutes sortes de pensées qui passent à l'esprit. Et peut-être que tu es en train d'entendre cette voix, cette petite voix qui est là, qui est en train de te dire « Non mais, pas toi, c'est pas possible, pas pour ta vie. » Ou peut-être cette voix qui te dit « Ok, d'accord, mais pas pour toi, il n'y a pas droit, toi. Ça sera pour les autres. Mais toi, ce n'est pas possible. Et puis, ça fait trop longtemps que ça dure. C'est trop tard. Tu ne peux plus revenir en arrière. Tu ne peux plus t'accorder ce pardon sur toi, sur ta vie. Et puis, si tu te pardonnes, ça changera quoi? Le mal est fait. Cette voix qui vient te dire, mais le mal est fait. Ça ne sert à rien, reste sur cette position-là. Oui, peut-être que le mal est fait, mais Dieu change le mal en bien. Seigneur, transforme ce qui est ténèbres en lumière. Il nous apporte un enseignement au travers de cela. On a peut-être fait du mal, on l'a peut-être regretté, on s'est peut-être mordu les doigts. On s'est peut-être privé de toutes sortes de choses, mais maintenant, arrête. Parce que tu ne fais pas le plan de Dieu. Tu viens ici pour recevoir une parole de Dieu, mais il y a une carapace que tu t'es mise depuis des mois et des années et qui t'empêche de recevoir cette grâce de Dieu pour ta vie. Et je prie le Seigneur que ce message ce matin puisse au moins pénétrer une partie de ton cœur. Et que tu réalises que tu as été piégé par l'adversaire. Tu as cru bien faire en te privant de la bénédiction de Dieu, en te refusant ce pardon, parce que tu t'es dit, je suis allé trop loin, j'ai fait tellement de mal, j'ai mal écouté mes enfants, j'ai pas su prendre du temps avec mes proches, et c'est trop tard, je peux plus revenir en arrière, et tu t'es fait du mal avec ça, ok, mais on arrête. On arrête. Arrête. Parce que c'est pas ce que Dieu veut. C'est parce que le Seigneur a accompli à la croix pour toi. Il faut que tu achèves totalement le pardon. Tu as fait une partie. Tu es allé voir un frère, une sœur, un proche, un ami, tes enfants, tes parents. Maintenant, il faut que tu te l'accordes pour toi, pour que ce pardon soit total. Je demanderai peut-être aux musiciens de venir prendre place, s'ils sont là. Que nous puissions réaliser ce matin vraiment cette grâce qui nous a été accordée. Vous savez, tu as peut-être ces pensées du diable qui vient te dire « Non, c'est pas pour toi, tu n'y as pas droit. » Et pourtant, si tu as ces pensées-là dans ton cœur, c'est bon signe. C'est bon signe parce que le Seigneur voudrait te tendre cette main, c'est bon signe parce que le Seigneur voudrait te libérer, c'est bon signe parce que le Seigneur est en train de toucher, est en train d'interpeller ton âme et ton esprit au plus profond de ton être. Il y a comme un tiraillement d'un côté. Le diable qui veut essayer de te convaincre de rester toujours là, écrasé, en subissant ta vie chrétienne. Le diable qui voudrait essayer de te dire non, tu n'y as pas droit, il va encore te convaincre. Il y a comme une bagarre, il y a comme un combat spirituel. Et toi, tu dois faire un choix. Personne d'autre peut le faire à ta place. personne ne peut faire ce choix sur ta vie. Se pardonner ouvre l'accès à la bénédiction. Mais cela dépend de toi. Parce que Jésus a tout accompli à la croix du calvaire. Lui, il attend qu'une seule chose, c'est que tu lui donnes le feu vert pour retirer ce mal-être dans ton cœur. Ce qu'il voudrait, c'est que tu prennes la clé et que tu enlèves ce cadenas de ton cœur et que tu te libères. Se pardonner ouvre l'accès à la libération, brise les chaînes. Se pardonner va te permettre de rentrer dans ta destinée. Par contre, le non-pardon provoquera le statu quo sur ta vie. Se pardonner, c'est reconnaître et accepter le sacrifice de Jésus à la croix. Et là, il sera total, il sera complet. Le sacrifice, ce n'est pas seulement pour les autres, mais c'est aussi pour ta vie. Et pour qu'il soit total sur ton cœur, et pour que tu aies le pardon complet, total sur ta vie, il faut que tu te pardonnes, il faut que tu acceptes que Dieu vienne enlever cela, mais il faut que toi, tu acceptes aussi qu'il vienne agir sur ta vie. Arrête de te punir. Arrête de te faire du mal. Refuser de se pardonner, c'est refuser la main tendue de Christ. Alors j'aimerais que nous puissions courber nos fronts quelques instants. On va rester dans le recueillement. Je suis conscient qu'il y a un effort à faire ce matin. Je suis conscient que ça fait du mal de peut-être de rater une occasion de bénir quelqu'un parce qu'on n'a pas été à l'écoute au moment voulu. On a raté peut-être des occasions avec des proches, avec des amis, avec la famille, avec nos enfants, et que sais-je encore. Mais ce n'est pas comme ça que tu vas rattraper cette situation. Ce n'est pas en te brisant, en te faisant du mal, que tu vas trouver la solution. Se pardonner, mon frère, ma sœur, est sans doute le plus beau cadeau que l'on puisse s'offrir à soi-même et aux autres. Non seulement pour ta vie, mais il va y avoir une telle répercussion sur ta vie que ça va toucher tous ceux qui t'entourent. Alors ce matin, il y a peut-être quelqu'un ici dans ce lieu qui a besoin de cet attouchement divin. Mais tu as un choix à faire. Et ça, personne ne peut le prendre à ta place. Personne ne peut faire ce choix à ta place. Personne ne peut prendre cette décision à ta place. Imagine, alors que tu es dans cet état, je le répétais tout à l'heure, Seigneur vient de te dire, tu aimeras ton prochain comme toi-même, comment tu vas aimer tes proches, ceux que tu m'aimes, ceux que tu aimes par-dessus tout, si toi-même tu te détestes. S'il y a quelqu'un qui veut recevoir l'action de Dieu dans sa vie, qui veut débloquer, qui veut briser ses chaînes, je t'inviterai à te lever à ta place. J'aimerais prier pour toi. Le Seigneur est en train de tendre cette main ce matin ici dans ce lieu. Le Seigneur est en train de faire une œuvre, une action puissante sur cette église, sur cet auditoire ce matin. Plusieurs se sont levés, et toi maintenant, que vas-tu faire? Est-ce que tu vas rester dans ce mensonge? Tu vas croire encore à ce père du mensonge? Ou tu vas te dire, maintenant ça suffit, j'arrête là. Je me suis fait trop de dégâts, je me suis fait trop mal. Que le Seigneur ce matin vienne vraiment te toucher, que le Seigneur vraiment vienne te convaincre, c'est ma prière. Ne te laisse pas faire, ne laisse pas l'adversaire te mentir, ne te mens pas à toi-même. Tu sais très bien que la solution est entre les mains du Maître, et que rester sur cette position, tu as forcément tort, alors que Christ a raison. J'aimerais que vraiment nous puissions prendre ce moment ce matin. Je voudrais prier pour vous. Je voudrais vraiment que le Seigneur passe dans ce lieu maintenant. Que le Seigneur commence à faire une œuvre de restauration dans ton cœur. Que nous puissions entendre ces chaînes se briser dans ta vie. Et que la bénédiction de Dieu soit ton lot maintenant. Soit ton partage. Que tu puisses retrouver cette vigueur, cette joie d'antan, celle que tu as perdue, celle que tu avais qui a embrasé, qui a enthousiasmé tout ce qui t'entourait. Tu transmettais la joie de vivre alors que tu t'es éteint. à ce nom, pardon. Et je voudrais prier pour toi maintenant.